chaque année, nous faisons trois parties, pendant les trimestres. L'année dernière, nous avions posé d'abord un regard de sagesse sur l'homme et sur son action, en insistant sur le principe essentiel du primat de la grâce, pour prendre une expression de Jean-Paul II. Ensuite, nous avions essayé de mieux développer la charité, la compassion, comme compassion, parce que c'est par pro caritas, de comprendre la différence entre une compassion humaine et une compassion proprement chrétienne, inspirée par la charité divine. Et ensuite, nous avions, pour terminer, au troisième trimestre, nous avions eu la question de la communication, l'écoute. Alors, cette année, on va voir la question du discernement spirituel, donc pendant ce premier trimestre. Ensuite, ce sera le combat spirituel. Et ensuite, nous essaierons de mieux articuler le développement psychique, le développement spirituel. Enfin, on va voir. On a le temps de réfléchir pour le troisième trimestre. C'est un sujet un peu plus délicat qu'on aimerait traiter à la fin. Mais l'essentiel, donc, c'est de poser des bases à une relation d'aide, d'accompagnement au sens large. De voir comment exercer la charité dans la sagesse du Christ, dans l'esprit du Christ. Donc aujourd'hui, nous commençons le discernement spirituel. Je voudrais d'abord souligner l'importance du discernement. Je cite souvent saint Thomas d'Aquin disant qu'il vaut mieux marcher à petits pas dans la bonne direction que de courir dans la mauvaise. Mais c'est évident que dans notre vie, les problèmes essentiels viennent des fausses routes, des faux espoirs, des fausses lumières, qui fait que nous pouvons nous retrouver dans des impasses, humainement, parlant, même si Dieu est le maître de l'impossible. Je pense qu'il aimerait bien que nous soyons un peu plus dociles à sa lumière divine, pour pouvoir guider nos pas sur des chemins plus simples, plus légers. On dit que Dieu fait des lignes droites avec des courbes, mais je pense qu'il fait aussi des lignes droites avec des droites. Bien. Donc nous sommes là pour voir comment nous disposer à accueillir la lumière de l'unique pasteur des âmes. Et en même temps, en parallèle, nous réfléchissons toujours sur la manière dont nous pouvons aider les autres ici à mieux discerner. Donc il y aura toujours les deux aspects. Pour nous-mêmes, de se mettre en position comment je fais pour discerner, ensuite comment j'aide l'autre à discerner. Je jouerai sur les deux tableaux. Moi, je vais insister dans cette première enseignement sur le fait que le discernement spirituel n'est pas d'abord une question d'exercice intellectuel, mais que c'est d'abord dans le cœur que ça se joue. Dans l'Ecclésiastique, il y a une parole étonnante qui dit que le cœur est la racine des pensées. Le catéchisme de l'Église catholique dit que le cœur est la racine des actes. Mais en fait, s'il est la racine des actes, c'est parce qu'il est la racine des pensées. On agit comme on pense. Donc de penser qu'entre la vie de notre intelligence et la vie de notre cœur, il y a des souterrains, des canaux. C'est relié, même si on ne comprend pas bien rationnellement comment nos pensées dépendent radicalement des dispositions du cœur. C- Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit Jésus, mais il aura la lumière de la vie. Bon, c'est le grand axe de cet enseignement. Et pour avoir la lumière, il faut suivre Jésus. Ouais, c'est pas compliqué. On peut déployer certaines règles, mais il y a une vérité qui nous est donnée dans l'Évangile lui-même, qui est simple. Jésus nous demande de le suivre pour être éclairé par lui. Je voudrais simplement illustrer très simplement cette parole. On va voir ce que signifie suivre le Christ pour discerner. Mais c'est vrai que dans certaines circonstances, je ne dis pas que ça suffit toujours, mais dans certaines circonstances, on peut faire l'expérience que le simple fait de penser à Jésus, ça nous remet dans l'axe. Ça nous évite de faire des bêtises. Le simple fait de penser à Jésus. Il y a des situations dans lesquelles il y a tout un processus de discernement spirituel qui ne se limite pas simplement à penser à Jésus. Mais c'est beau de voir que la simple pensée de Jésus peut quelquefois suffire. Et en vous disant ça, je repense à une parole citée par saint François de Sales, et je crois qu'elle est de sainte Catherine de Sienne. Jésus lui aurait dit « Pense à moi et je penserai pour toi. » Si quelqu'un me suit, on ne sera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Vous voyez, des fois, on se lance dans toutes sortes de réflexions un peu compliquées pour essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Puis on oublie de penser à Jésus. Juste une petite remarque. Alors, deuxième remarque ici, Jésus dit qu'il est la lumière, celui qui me suivra la lumière. Dans l'évangile de saint Jean, notamment, tout est en question de lumière. Il y a celui qui marche dans la lumière, celui qui marche dans les ténèbres. L'action est un pas. Alors, si on marche dans les ténèbres, comme dit Jésus, il marche la nuit, il bute et il tombe. C'est le péché, c'est une chute. Parce qu'il voit pas ce qu'il faut faire. Parce qu'il est. Il ne voit pas où il faut marcher. Alors, de manière analogue, l'œil de notre conscience a besoin d'être éclairé pour que nous puissions voir ce qu'il faut faire et avancer sur le chemin de Dieu. C'est Paul VI qui dit que la conscience est un œil qui a besoin de lumière. Alors, dire que la conscience est un œil qui a besoin de lumière, vous voyez, c'est autre chose que de parler de la conscience simplement comme un acte de l'intelligence pratique au sens où on confondrait ça avec un simple raisonnement. Alors ici, je fais tout de suite une précision, vous voyez, on peut avoir des idées de choses à faire, par exemple on se dit que ce serait bien de faire ça, parce qu'on imagine que ça pourrait... je dirais avoir tel effet. Donc on a un espoir qui nous pousse à penser que oh ben, ça c'est une bonne idée. Mais on peut avoir des bonnes idées dans la tête, c'est pas pour autant que l'on voit vraiment ce qu'il faut faire. Est-ce que vous expérimentez la différence entre avoir une sorte d'évidence qu'il faut faire ça, puis de suivre une idée, une bonne idée entre guillemets. Pense être une bonne idée, mais ça reste au niveau de la tête. Il n'y a pas vraiment une perception intérieure. L'œil de la conscience n'est pas vraiment éclairé. On suit son idée simplement. Alors, l'Église nous dit qu'on ne devrait jamais agir avec une conscience douteuse, et une conscience qui ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire.
Parce que quand on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire dans des cas comme on fait en face de grands malades, en face de prisonniers qui ont commis des actes graves, en face de personnes enfermées dans leurs problèmes, je pense que c'est là où vous disiez tout à l'heure, penser simplement à Jésus peut quelquefois suffire, mais je pense que c'est la qualité de présence qui suffit si on est présent, comment dirais-je, présent avec Jésus, et peut-être peu parler, quoi, par les paroles. Enfin, est-ce que ça correspond à ce que vous étiez en train d'expliquer?
Oui, je pense que pour que la lumière se fasse en nous et en l'autre, il y a cette qualité de présence à Dieu et à l'autre qui fait aussi qu'on est plus dans la paix. Et ici, je reprends une image traditionnelle, comparant l'âme à la mer. Quand elle est agitée, elle laisse passer la lumière. Quand elle est calme, quand elle est agitée, elle ne laisse pas passer la lumière, on ne voit rien. Quand elle est calme, elle laisse passer la lumière. Et donc, être soi-même, c'est forcément d'être dans la paix et de se... Comment dire, en restant proche du cœur de Jésus et essayer de, par notre attitude, notre qualité de présence, de garder l'autre aussi et de le remettre dans la paix, ça me semble essentiel pour que les choses puissent se passer en profondeur.
Oui, je voulais dire, quand on n'a rien à dire, enfin, quand on est dépassé par la situation de l'autre et qu'on n'a rien à dire, c'est là que c'est important d'être dans cet état de...
Moi, je disais, moi, j'apprendrais sur les pensées, les bonnes idées, c'est pas que penser est mauvais et que d'avoir des bonnes idées est mauvais, mais l'important, c'est de les mettre dans la lumière de Dieu, de pas rester simplement accroché à sa pensée, c'est ça que je dois faire, mais de pouvoir l'ouvrir et rendre disponible si c'est autre chose que la lumière de Dieu nous donne, mais il a besoin, quand tu disais, je penserai pour toi et j'ai mis, mais pas sans toi. Il a besoin aussi de notre intelligence et de nos bonnes idées. Mais c'est lui qui nous guide. Ça te va comme ça?
Je dirais que les vraies bonnes pensées sont le fruit mûr d'une perception intérieure, de quelque chose qui mûrit. Ce qui est dangereux, c'est les pensées un peu artificielles. Ouais, quelqu'un nous a dit un truc et puis on se met à imaginer des choses, ou on a lu quelque chose dans un livre, et puis, mais ça ne correspond pas à un processus d'illumination intérieure de la conscience. Tu me suis?
Oui, oui. Hein?
Donc, c'est pour ça que c'est important de faire cette distinction entre le raisonnement qui serait purement intellectuel dans le mental, et puis un jugement de conscience personnelle. Qui nous amène à voir ce qu'il faut faire. En français, c'est clair l'expression. Je vois. Est-ce que tu vois ce qu'il faut faire? Non, je ne vois pas. J'ai des idées dans la tête, mais en réalité, je ne vois pas. Donc, à proprement parler, le discernement spirituel, c'est de parvenir à voir. C'est spirituel, pourquoi? Parce que cette lumière, en définitive, c'est celle de l'Esprit Saint. Tout homme est éclairé au fait, même les personnes qui ne sont pas croyantes, elles bénéficient de la lumière de Dieu qui est lumière et qui demande qu'à éclairer tout homme pour le guider sur le chemin de la vie éternelle. Évidemment, il n'y a pas que nous qui sommes éclairés par Dieu. On va essayer de voir la manière dont on peut se disposer cette lumière. Et se disposer dans notre cœur pour que notre intelligence soit disponible, que les choses donc, se jouent au niveau du cœur. Voilà, peut-être que Je peux préciser ici, au niveau de l'aide qu'on voudrait apporter aux personnes, de respecter le temps, le facteur temps. C'est-à-dire la lumière, elle se fait peu à peu. Et de penser que la personne, peut-être pas au moment où elle est en état de voir vraiment précisément ce qu'elle doit faire. Surtout que Dieu, souvent, donne la lumière précise au moment de l'action. Et donc, en fait, on perd beaucoup de temps et d'énergie à précéder ce moment où Dieu donnera la lumière précise, en voulant préciser d'avance. Un manque de patience. De notre part, peut-être de la part de la personne qui nous pose des questions qui sont prématurées. Alors qu'en fait, il y a un chemin qui est à faire dans son cœur, dans son esprit, pour qu'elle puisse vraiment accéder à la lumière dont elle a besoin. Donc, n'allons pas plus vite que l'Esprit Saint et ne poussons pas les autres non plus aller plus vite, essayons plutôt de les maintenir dans le moment présent, en disant, mais voilà, la question c'est qu'est-ce qu'il faut que tu fasses maintenant? Le pas à faire maintenant. Sachant qu'un pas, on prépare un autre, et qu'une lumière, on prépare une autre. Que je reviens sur cette idée que Dieu aime bien ne donner la lumière sur le moment, c'est-à-dire pas après pas, aussi pour nous garder dans la confiance. On voit des grandes œuvres de saints commencer par de toutes petites choses, ont accepté de faire le pas. Je ne connais pas bien la vie de Mère Teresa, si vous vous souvenez peut-être, mais ça a commencé par un petit pas, puis ça a pris une ampleur, peut-être qu'elle avait quand même une petite inspiration que ça vous tirait à. Mais j'ai l'impression que les choses se sont faites vraiment dans une confiance au départ aveugle, au sens où les choses il n'y a rien qui laissait prévoir que ça pourrait prendre une telle ampleur. Je pense aussi à la manière dont la communauté Emmanuel s'est faite, s'est accomplie à partir d'un groupe de prière. Aussi la manière dont Pierre Coursa a freiné les premiers frères qui voulaient tout de suite faire une communauté, et Pierre Coursa disait non, c'est pas encore mieux, il faut qu'on laisse du temps pour y voir plus clair, pour voir, parce qu'il pensait plutôt à une communauté du style béatitude, avec un habit et tout ça, et puis Pierre Coursa disait non, on va laisser, on laisse mûrir, puis finalement c'est autre chose qui est née. Il a laissé le temps au temps.
L'abbé Pierre, c'est quand même qu'il a commencé tout petit à héberger.
Ouais. Par le micro.
Non, mais je crois que ça résonne.
Oui, oui, ça résonne. Je ne connais pas trop bien. Tu avais un autre exemple?
Non, ça suffit.
Aussi, dans cette recherche du discernement spirituel, pensons que les commandements de Dieu sont comme des panneaux indicatifs, des balises qui nous aident à ne pas partir dans le décor. Ils ne suffisent pas pour voir ce qu'il faut faire, mais ils nous disent ce qu'il ne faut pas faire. Dans certains cas, ça suffit pour décider de l'action. Mais dans d'autres cas, il ne faut pas en rester. Ce n'est pas parce que, par exemple, une action est moralement juste, qu'il n'y a aucun commandement qui l'interdit, que pour autant elle est bonne à faire. Tout est bien. Comment dit l'exemple, Saint Paul dit
Tout est permis, mais tout n'est pas profitable.
Voilà. Tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Donc le tout est permis, c'est au niveau moral. Mais le tout est profitable, c'est au niveau du discernement spirituel qui ne se contente pas donc d'un jugement moral, mais qui tient compte des circonstances et des saints divins, qui fait que telle voie est préférable à telle autre. Et souvent on se fait un peu piéger. Personne ne dit, ah ben oui, mais tu as le droit de le faire. Ah mais ça c'est permis, hein. Niveau moral, là c'est permis. Mais est-ce que c'est pour autant la volonté de Dieu? Vous voyez? Des fois, on se précipite en disant, ah oui, ben oui, si c'est permis, donc je peux le faire, moi je vais le faire. Non. Bien. Et garder les commandements comme des balises, voilà, mais pas rester simplement au niveau moral. Et Saint Ignace, dans les exercices spirituels, si je me souviens bien, il dit que le discernement spirituel commence une fois qu'on a bien mis les commandements à leur place, qu'on est bien clair, on est dans les clous, comme on dit maintenant, mais il reste une étape ultime qui est proprement le discernement spirituel. Enfin, plus loin que le discernement moral, que le jugement moral.
Et puis il y a aussi pour moi aujourd'hui maintenant, c'est-à-dire c'est très bien de prier, mais peut-être pas 5 heures par jour. Pour moi aujourd'hui, et peut-être quelqu'un d'autre, ça sera ça. Il y a aussi ça, c'est pas simplement au niveau moral, mais même au niveau du bien. Pour moi, avec mes limites, avec ma vie telle qu'elle est, je ne peux pas prier 5 heures par jour. Et le Seigneur ne me le demande pas, et pourtant c'est très bien. Il y a aussi nos limites, et c'est à l'intérieur de nos limites que le Seigneur nous attend. Et nous parler pas en dehors. Lui, il a accepté ses limites aussi.
Donc, il faut se méfier d'un certain idéal qu'on se fixerait et par rapport auquel on penserait discerner en fonction d'une perfection que Dieu nous demande. Peut-être pas, mais qui fait qu'on est plus dans un discerner ce qui. Enfin, dans un chercher à voir ce qu'il faut faire, mais plutôt comment rejoindre un idéal. Moi, j'aurais évité de faire bien des bêtises au niveau, quand j'étais jeune prêtre, au niveau d'excès de jeûne ou de choses comme ça, si je m'étais remis simplement devant la volonté de Dieu et non pas de suivre un modèle style curé d'Ars ou machin comme ça. C'est des pièges classiques, ça. Vous voyez ? On se fixe un modèle et puis on discerne, entre guillemets, justement, on ne discerne plus parce que au lieu de regarder Jésus et d'être à l'écoute de Jésus, on regarde vers un idéal, une perfection. Alors, il y a plein de pièges dans la vie spirituelle. Bien se le dire. Alors, est-ce qu'on peut dégager un principe fondamental de discernement? La première parole, vous l'avez entendue, c'est une promesse de Jésus. Si quelqu'un le suit, marchera par les ténèbres, il aura la lumière de la vie éternelle. Ben, la deuxième parole, c'est si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Ben, il me semble, le principe fondamental, c'est de renoncer à soi-même. Ben, ici, je colle le plus possible à la logique de l'Évangile. Et il me semble rejoindre ainsi le principe fondamental de Saint Ignace, que je vous lis, Saint Ignace de Loyola. La première condition requise pour faire une bonne élection est, de notre part, que l'œil de notre intention soit simple. Je ne dois considérer qu'une seule chose, la fin pour laquelle je suis créé. Cette fin est la gloire de Dieu, notre Seigneur, et le salut de mon âme. Donc, quelle que soit la chose que je décide à choisir, ce doit être pour qu'elle m'aide à obtenir cette fin, en gardant de subordonner, d'attirer la fin au moyen, mais dirigeant le moyen vers la fin. Au fond, c'est de vouloir purement et simplement ce que Dieu veut pour moi. Ma vie éternelle, le salut, selon le chemin qu'il choisit lui, mais de ne pas avoir d'autre but. Mais renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est renoncer à sa volonté propre. C'est renoncer à ses projets propres. C'est renoncer à la manière dont nous voudrions nous réaliser nous-mêmes. Donc en fait, ce que dit Saint Ignace, il me semble, hein, rejoint la parole, l'exigence première que Jésus pose pour qu'on puisse le suivre, lui qui est la lumière. Ce renoncement à diriger nous-mêmes notre vie, selon nos vues. Ça peut paraître évident, on peut avoir l'impression qu'on le fait, mais aussi on peut facilement passer à côté.
Ça paraît pas évident, mais ça paraît surtout contradictoire avec ce qu'on nous enseigne, le développement personnel, et etc. Bon, il me semble, qu'est-ce qu'on pense de Florence ?
Il faut préciser pour les nouveaux que je suis psychologue. Donc j'ai pour mission de remettre les pieds sur terre. Quand le père s'envole un peu trop. Et j'essaye d'expliquer au père et à Cécile que la thérapie, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que c'est pas avant tout le bien-être, c'est se trouver soi en se dégageant justement de tout ce qu'on nous a mis dessus, de tout ce qu'on a pris aux autres, tous les modèles qu'on a pris, pas forcément les saints, mais qui peuvent être beaucoup d'autres personnes qu'on admire, et que le travail sur soi-même est aussi un travail dur et un travail de purification pour trouver mais qui suis-je, quel est mon cri, quelles sont mes qualités, quelles sont mes difficultés et où est ma voix. Et c'est un gros travail aussi. Alors bien sûr qu'il y a des réclames d'un bien-être facile, mais je plaide pour le courage de tous ceux qui entament un chemin de travail sur eux. C'est un gros travail et un gros effort aussi qui peut aller tout à fait dans un chemin chrétien, évidemment. Et donc c'est renoncer à la volonté propre qui ne voit que mon petit bout de lorgnette et qui la plupart du temps est biaisée aussi par tout ce que j'ai accumulé au cours de ma vie, de fausses idées sur moi, de choses que j'ai prises aux autres et qui a nettoyé tout ça aussi. Donc ça va bien ensemble. C'est le dernier enseignement qu'on doit faire, hein, c'est ça, déjà en train de se faire.
Oui, enfin, il y a quand même une différence radicale au sens où, dans la vision de l'évangile, il y a un primat de Dieu qui fait que je peux préférer Dieu à moi-même. Le dernier mot n'est pas en fait de me trouver moi-même, même en vérité, arriver à être vraiment ce que je suis, mais le dernier mot est de trouver Dieu. Et ça, la psychologie moderne ne peut pas l'intégrer pour l'instant. Enfin, abstraction de Dieu et abstraction de la grâce. Mais on peut concevoir qu'un jour elle s'ouvre à cette dimension-là, c'est pas impossible. Pour l'instant, elle est l'expression de notre monde moderne.
Oui, bien sûr.
Alors, peut-être qu'on peut revenir encore à l'Évangile et trouver une confirmation de ce que je dis. La lampe du corps, c'est l'œil, dit Jésus. Si donc ton œil est simple, ici je prends le texte grec littéral, et malheureusement, c'est souvent traduit par « si ton œil est simple, et ça y est », alors qu'en fait, non, c'est « si ton œil est simple ». Et vous avez lu dans le texte de Saint Ignace, il dit « La première condition pour faire une bonne élection est que l'œil de notre intention soit simple. » Je pense que lui devait avoir la traduction exacte dans la Vulgate, parce qu'il a cette expression de l'œil de l'intention simple. Donc, je reviens à l'Évangile. « Si ton œil est simple, ton corps tout entier sera lumineux. Si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. » Le corps, dans l'Écriture, ça représente la vie concrète. C'est la personne comment dire, dans, son activité extérieure, dans les actions concrètes qu'elle pose, le comportement. Et donc ici, Jésus nous dit que si l'œil est simple, l'action concrète sera lumineuse. Celui qui me suit, qui regarde vers moi, en se détachant de lui-même, en renonçant à lui-même, ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie, c'est-à-dire ses actions seront dans la lumière, et son corps tout entier sera lumineux. Sa vie tout entière sera lumineuse. En vous disant ça, je revois Jean-Paul II mettre sa... Ce que le prêtre met autour du cou et qu'on ne met plus, on attend, parce que ça cache la chemise et le... Non, c'est quand on dit la messe avant de mettre là. Là
la micte.
La micte, oui, c'est la micte. Et je vois Jean-Paul II mettre son amicte, alors il l'a jeté par derrière lui, et puis il l'a accroché à son cou, comme ça. Un geste d'une justesse, d'une... C'était beau. C'est ce que j'ai le plus retenu de la messe. Oui. Il y a des gestes qui sont lumineux. Et il devait être tout présent à ce qu'il faisait pour que ça m'ait autant frappé. C'était beau. C'était rayonnant. Un geste pas... Il n'y a pas de signification particulière, vous voyez, c'était pas... Mais il y a des choses, on sent qu'elles sont parfaitement ajustées, parfaitement... pénétrée par la lumière de Dieu et elle rayonne. Jésus dit, si l'œil est simple, vraiment c'est toute la vie qui rayonne, de la lumière que Dieu met dans notre cœur et qui jaillit, qui s'exprime à travers notre corps, à travers nos actions concrètes. Écoutez saint Augustin commentant ces mêmes paroles de l'Évangile dans ses premières œuvres de jeunesse, qui est sur le serment sur la montagne. Ce que je vous citais, c'est Matthieu 6, 22-23, c'est le serment sur la montagne. Le sens de ces paroles, dit saint Augustin, est que nous reconnaîtrons que toutes nos œuvres sont pures et agréables aux yeux de Dieu si elles sont faites avec un cœur simple. C'est-à-dire avec une intention surnaturelle et normative de charité. La charité, la plénitude de la loi. Cet œil, c'est l'intention qui préside à toutes nos actions. Saint Ignace, l'œil de l'intention. Cet œil, c'est l'intention qui préside à toutes nos actions. Si elle est pure et droite, si elle n'a en vue que le but qu'elle doit se proposer, toutes nos œuvres qui reçoivent d'elle leur direction sont nécessairement bonnes. Si le cœur est vraiment pur, alors c'est la racine qui est pure et tout le reste est pur. Et ici, déjà, vous voyez, c'est bien de tout de suite se dire, attention, une intention pure, c'est autre chose que la bonne intention. Et oui. Et souvent, on part sur une bonne intention. Et puis on reprend une autre parole de saint Augustin, aime et fais ce que tu veux, qu'on interprète mal, et puis on est parti. C'est pas remis vraiment devant cette exigence d'une purification en profondeur de l'intention du cœur. Ici aussi, il faut distinguer l'intention profonde du cœur et puis les intentions conscientes. L'intention profonde du cœur peut nous échapper. L'intention profonde du cœur, le plus souvent, on n'est pas en contact avec elle. Repensez aux pharisiens. Est-ce qu'ils étaient conscients qu'ils recherchaient leur propre gloire et non pas la gloire de Dieu? Est-ce qu'ils avaient tant de zèle pour Dieu? Et saint Paul dit, ils ont du zèle pour Dieu, mais mal éclairé. C'est Jésus qui dénonce leur intention, qui leur donne, en même temps leur donne une lumière salutaire en leur disant, mais vous ne vous rendez pas compte que l'intérieur est plein de rapines, Vous purifiez l'extérieur, vous présentez des apparences de juste, mais c'est votre intérieur qui est plein de rapines, et cet intérieur, ils ne le voient pas, ils sont aveuglés. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus aveuglant que l'orgueil. Donc, on peut passer toute sa vie avec des bonnes intentions, entre guillemets, sans parvenir à cette purification profonde du cœur, et il ne faut pas s'étonner que notre vie ne soit pas si lumineuse que ça. On est bien d'accord. Je trouve dans l'Évangile encore une autre confirmation. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. C'est Jésus qui parle. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, Jésus me dit ce qu'il vit. Je ne puis rien faire de moi-même. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas de moi-même, je ne juge pas de moi-même. Mais mon jugement est juste parce qu'il est ajusté au Père, à la volonté du Père, parce que je ne cherche que ça, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est l'intention simple, l'intention du cœur simple, qui fait qu'on lâche les rênes de sa vie, pour se laisser conduire par un autre, dans un abandon total. Ça, c'est l'état du Christ, son état filial, son obéissance filiale dans laquelle il nous faut rentrer progressivement. Je dis progressivement, parce qu'évidemment, il y a plein de résistance à cet abandon filial. Qui de nous peut dire comme Jésus, je ne peux rien faire de moi-même, mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. Et alors qu'est-ce que propose Saint Ignace, lui, de son côté ? Saint Ignace nous propose un exercice qui doit nous conduire à nous rendre indifférents à l'égard de tous les objets créés. Il dit, voilà, l'homme doit regarder vers sa fin ultime, qui est de louer, honorer, servir Dieu. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, dit Jésus. Ça, c'est l'œil saint, d'où il suit qu'il doit faire usage du reste, des choses créées qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas le royaume de Dieu. Il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers sa fin, il doit s'en dégager autant qu'elle l'en détruit. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à l'égard de tous les objets créés. En tout ce qui est laissé au choix de notre libre arbitre, et ne lui est pas défendu. Ici, il ne considère que ce qui est permis. Alors, dans tout ce qui est permis, par rapport à tout ce qui est permis, parce que ce qui n'est pas permis, n'en parlons pas. C'est office. Et c'est de côté. Hein. Mais dans tout ce qui est permis, dans toutes les choses créées que je pourrais acquérir, par rapport à ça, je dois me rendre indifférent. Pourquoi Saint Ignace prêche l'indifférence ? Qu'est-ce que tu penses du mot indifférent, Florence ?
Je trouve qu'il est bon.
Fait pas peur ?
Pas du tout. Je trouve qu'il est pas. Je trouve qu'il n'est pas facile à comprendre. Je dirais peut-être plutôt disponible. Ouais. Que indifférent, voilà. Si tu veux. Mais j'entends bien l'indifférence. Mais d'être disponible, là, voilà.
Je crois que dans un autre passage, Saint Ignace prend l'image de l'aiguille de la balance avec l'être immobile et juste au milieu, et il penché d'un côté et penché de l'autre, et on ne désire pas plus une chose que l'autre, nous-mêmes. Parce qu'on attend que ce soit l'Esprit Saint qui nous incline. Alors, si on incline de nous-mêmes, dans un sens, ben, l'Esprit Saint, il est gêné. Donc, si on est vraiment juste au milieu, indifférent, on ne veut pas plus ce côté-là que ce côté-là, à ce moment-là, il suffira que l'Esprit Saint nous pousse légèrement dans le bon sens, et pouf, on est incliné dans le bon sens, parce que nous, on est passif, immobile. Moi, c'est comme ça que je visualise les choses. Vous voyez ? Nous sommes morts et notre vie est cachée en Dieu. Tout ça, c'est pour dire que, justement, l'absence de volonté propre, hein, et même de projet propre, qui fait que, apparemment, on n'est plus animé. On dit, la personne, bah, elle n'a pas beaucoup de désir, ou elle peut donner l'impression. Puis encore ça, il faisait un peu comme ça, quoi. C'était pas la personne pleine d'idées, pleine de grandes aspirations et tout ça. C'était quelqu'un qui donne l'impression d'être un peu amorti. Mais en fait, c'est simplement qu'il se laissait guider, quoi. Donc, il faut que l'Esprit Saint prenne quelque part la place de notre âme. On dit que l'Esprit Saint, c'est l'âme de l'âme. Que ce soit lui qui nous anime de l'intérieur. Mais tant que c'est nous-mêmes qui voulons animer, ben, il faut savoir si c'est lui ou nous, quoi. Bon, là, c'est lui avec nous, évidemment. Hein. Mais pour que ce soit lui qui mène les choses, il faut qu'on se dépossède de soi-même, quelque part. Qu'on meure, quelque part. Bien. Alors, on le fait comment, l'exercice d'indifférence ? Ben, on essaie de voir tout ce à quoi on est attaché. On prend les choses les unes après les autres, dans nos décisions, on voit si on n'est pas attaché à telle chose, et puis on les remet à Dieu, et puis on dit ben, que la volonté soit faite. Voilà, ça peut prendre un certain temps. Parfois, il faut une retraite entière, on fait des exercices pour arriver à trouver un peu de paix et un peu d'abandon. Mais je crois qu'on va dire que des fois, on est dans une tension, voyez, volontaire par rapport à cet état d'indifférence. Voilà, il n'y a que Dieu qui compte, la volonté de Dieu. On veut ne faire que sa volonté, mais si on est un peu vrai avec soi-même, on se rend compte que notre cœur, lui, n'arrive pas à suivre. Que oui, on a du zèle pour Dieu, on veut à tout prix faire sa volonté, seulement sa volonté, il n'y a que Dieu qui commande tout ça, mais notre cœur, lui, il ne rentre pas entièrement là-dedans, parce que il vit d'autres choses et il se raccroche désespérément au fond de lui-même aux choses qui le font vivre. Alors, quel est le secret là ? Comment on peut arriver à un état d'indifférence qui soit vraiment aimant, qui soit un abandon filial, qui ne soit pas une sorte de contrainte qu'on exerce sur soi et sans que notre cœur puisse y adhérer entièrement, mais on y va au forcing, au volontarisme spirituel. C'est un peu le danger chez certaines personnes ignatiennes, hein, c'est d'y aller par la force de la volonté, comme ça, bon, Saint Ignace, on sent l'homme quand même, l'ancien homme, il était militaire, et on sent une personnalité très forte, donc ce sont les exercices, c'est plutôt fait pour des hommes qui se posent la question du sacerdoce et qui sont prêts à s'engager jusqu'au bout pour Dieu. Bon. Mais si on regarde la voie de la petite Thérèse, qui est la voie d'enfance, on s'aperçoit que la petite Thérèse, à la fin, elle dit, par exemple, elle dit, je ne puis plus rien demander avec ardeur, etc. accepter l'accomplissement parfait de la volonté du bon Dieu sur mon âme. Et en fait, je n'ai plus d'autre désir fort, ardent, que le pur et simple accomplissement de la volonté divine. En fait, c'est ça l'état d'indifférence, aimant. On désire vraiment de profondément que l'accomplissement de la volonté de notre Père du Ciel. Et ça, c'est retrouver un cœur d'enfant. Qu'est-ce que dit Jésus dans l'Évangile ? Que ma nourriture de faire la volonté du Père. Donc je trouve ma joie dans l'accomplissement de la volonté du Père. À ce moment-là, la question de l'indifférence, j'allais dire, se pose plus. Parce que ma joie, c'est de lui obéir, de faire sa volonté, tout le reste. Peu importe du moment que sa volonté se fasse, parce que il n'y a que ça que je désire vraiment. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais là, il y a une transformation réelle du cœur profond, parce qu'on trouve un cœur filial. Tant qu'on n'a pas retrouvé ce cœur d'enfant, je crois que la différence ignatienne, c'est un peu à la force des poignets, mais c'est mieux que rien. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
Je suis en train de penser que tout dépend comment, pour chacun, elle se représente la volonté de Dieu. Alors, c'est ce qu'on a vu l'année dernière. Donc, reportez-vous-y ou trouvez d'autres moyens. Mais si on pense que la volonté de Dieu, c'est de nous trucider, c'est de nous faire souffrir, c'est de tout nous arracher, et là, la psychologue voit derrière tout ce qu'on a connu comme volonté sur nous, de parents d'éducateurs ou autres, ou religieux, qui n'étaient pas très ajustés non plus, les pauvres, ils en souffraient eux-mêmes. Mais il y a à nettoyer en nous. La relation filiale, qu'est-ce que c'est pour vous? Moi, le jour où j'ai découvert dans Saint-Paul, vous n'êtes plus esclave mais fils, et j'ai dit, mais c'est la même chose. L'enfant est l'esclave de ses parents, non? Ça a été une révélation. Pour moi, l'enfant est l'esclave de ses parents. Et quand on m'a dit, mais non, c'est pas la même chose, ah bon? Il m'a fallu du temps pour ça. Je pense que je suis pas la seule. Donc c'est ça aussi, tu vois, quand tu dis tout ça, moi je suis... Heureusement maintenant bien d'accord que c'est une volonté d'amour et que la volonté de Dieu sur nous, c'est l'union, c'est qu'on soit unis à lui, qu'on fasse un avec lui, c'est ça sa volonté d'amour. Après, le reste c'est du reste et puis peu importe quel que soit le chemin qu'on prenne, mais il y a à entendre ça.
Ça me fait penser aux réflexions de Benoît XVI sur les roses de Dieu. En fait, cette volonté d'amour, c'est une volonté amoureuse d'un Dieu qui nous aime jusqu'à la vraie folie de la croix et qui nous attire par son fol éros, comme dit Benoît XVI, son fol amour, nous attire nous-mêmes à l'aimer plus que nous-mêmes. On répond à l'amour fou de Dieu pour nous par un amour qui nous sort de nous-mêmes, qui fait qu'on aime Dieu plus que soi, et donc on préfère sa volonté à la nôtre, sans se forcer. Alors là, on comprend que c'est un long chemin. S'ouvrir à cette tendresse brûlante d'un Dieu d'amour, c'est un long chemin. Il y a le péché originel, il y a toutes nos peurs, il y a toutes nos fausses images de Dieu. Donc ici, on perçoit que le discernement spirituel, il va être facile, entre guillemets, naturel, au fur et à mesure que je m'enfoncerai dans cet état d'abandon filial. Et je me demandais, on parlait avec Cécile hier, on se demandait qu'est-ce qui permet concrètement, quel est le chemin de purification, qu'est-ce qui permet concrètement de basculer, enfin, nous fait progressivement nous enfoncer dans cet abandon filial.
Moi, je ne sais pas trop répondre. Tout ce que je sais en ce qui me concerne, c'est que je fais très bien la différence entre l'abandon tel que je l'ai connu, j'ai essayé de vivre une partie de ma vie, et puis l'abandon qui devient étable, qui me semblait donné. Je ne sais pas si... Oui, c'est le chemin de purification qui le permet. Et puis c'est peut-être surtout de, le jour où on se sent toute petite, impuissante, devant, on est vraiment tout petit, tout impuissant, et je pense que là, effectivement, on finit par n'avoir pas d'autres ressources, peut-être, que de tomber dans cet état d'abandon, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas expliquer, je sais le vivre, mais je ne sais pas l'expliquer.
Je repense quand même à Thérèse disant la plus grande grâce que Dieu m'a faite, c'est de m'avoir fait voir mon impuissance.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est en fréquentant la parole de Dieu, on se rend compte qu'il n'est pas comme nous et qu'il a des manières différentes des nôtres. Et quand justement on ose lâcher sa volonté propre et le laisser faire, on se rend compte qu'il nous mène, en tout cas moi c'est mon expérience, beaucoup plus loin que ce que moi j'avais décidé pour ma vie. J'avais décidé quelque chose que j'ai mis en route et qui a cassé. C'était une rupture brutale et très douloureuse. Mais je me suis rendu compte qu'il m'appelait bien plus loin et bien mieux que ce que moi j'avais décidé pour moi. Et quand on fait l'expérience une fois, deux fois, trois fois, on se dit, ben, peut-être que ça peut prendre un autre chemin et se rendre compte. Et puis, ben, je trouve la fréquentation de la parole de Dieu, quand on voit comment il se conduit, on a envie qu'il nous conduise aussi, comme ça. Enfin, en tout cas moi. C'est comme ça que
j'ai vu. Moi, j'ai une image qui m'a beaucoup marquée pendant une retraite ignatienne, justement. Il y avait une petite fille avec sa maman, une petite fille de 5 mois qui était là, abandonnée, dans les bras de sa maman, complètement abandonnée. Et il y avait dans un hall une vierge avec l'enfant Jésus dans les bras, abandonnée. Et là, ça m'a beaucoup frappée, cette image. Je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça l'abandon, c'est ça c'est ça, on m'appelle Dieu, quoi. Et je pense qu'effectivement, c'est être comme ce petit enfant, impuissant. Autant le petit Jésus dans les bras de sa maman était impuissant, la petite Laure était impuissante dans les bras de sa maman. Et pour moi, voilà, cette impuissance m'a paru être vraiment le véritable chemin de l'abandon. Enfin, je sais pas si... Je sais pas ce que je veux en dire, qui savait mieux.
Moi, je pense que c'est l'humilité qui purifie l'amour et qui permet à l'amour d'être... vraiment tourner vers un autre, enfin, dans un véritable don et abandon de nous-mêmes. C'est l'humilité qui nous décentre de nous-mêmes, qui fait qu'on n'est plus dans cette recherche secrète de soi, d'un idéal de soi qui va de pair avec une recherche de notre volonté propre. Agir de soi-même et se rechercher soi-même, ça va ensemble. Et le décentrement ne peut être que le fruit d'un chemin d'humilité. Moi, ce qui m'a aidé après, c'est de voir à quel point, à chaque fois que je voulais mener les personnes selon mes vues, selon mon savoir, selon mes projections, selon tout ça, ça aboutit sec à des catastrophes. Et donc, la parole de Jésus, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mon impuissance au niveau apostolique m'aide à rentrer dans la passivité. Et de lâcher mes plans, mes calculs, trop humains.
J'ai entendu une très belle histoire dernièrement à la télévision. Une pianiste, elle s'appelle Elisabeth, vous connaissez certainement, Elisabeth Zomba. Et alors elle disait qu'elle a été invitée en Afrique pour jouer. Elle arrive, c'était un hangar qui était plein de monde qui venait pour l'écouter. Et quand elle a vu l'instrument, elle a dit un truc, parce que ce n'était pas un piano, c'était un instrument lamentable, avec des fils qui pendaient, et elle a commencé à paniquer. Elle a entendu une petite voix, elle n'a pas entendu par ses oreilles, mais elle a entendu comme on entend des fois la voix du Seigneur en nous. Elle a entendu une petite voix qui disait « Toi, tu joues, moi, je m'occupe des âmes. » Et pour finir, elle a joué, tout était bien. Elle a été très étonnée, elle voyait, elle avait peu de lumière, elle voyait le premier rang, elle voyait les larmes qui coulaient partout. Et là, elle a compris qu'elle n'avait rien à faire qu'à jouer et que Dieu s'occupait du reste. Mais pour moi, c'est ça l'abandon.
Le Seigneur fait plus par la profondeur de notre abandon et de notre humilité que par la grandeur des paroles, des actions qu'on peut poser. Bon, vivons dans l'espérance, peut-être un jour nous parviendrons à un état d'enfance dans lequel la question du discernement spirituel ne se posera plus pratiquement. Ceux qui sont enfants de Dieu se laissent mener par l'Esprit de Dieu, dit Saint Paul.
Alors, ajouter que je pense que faire la volonté de Dieu, avoir ce vouloir de faire la volonté de Dieu, c'est quand même le début du chemin, c'est un chemin indispensable. Il me semble.
Je pense que les recommandations données par Saint Ignace, qui ont un côté un peu volontariste, sont à prendre comme un premier pas, mais en gardant présent à l'esprit qu'il y a le cœur lui-même qui a besoin d'être purifié en profondeur et que ça prendra du temps. Voilà, ne pas s'arrêter à ça. C'est un premier pas, c'est donné dans le cadre d'une retraite, on fait un exercice intensif avec la force de la volonté. Il y a une force dans la volonté qu'il ne faut pas négliger, mais simplement ne pas se contenter de ça. Aspirer à plus. Aspirer à ce que décrit Saint Jean de la Croix, c'est-à-dire qu'à un moment, vraiment, l'obéissance devient notre joie. Quand on trouve vraiment sa joie dans l'obéissance, on a de fait. Tout le reste, ça nous est égal, du moment que c'est la volonté de Dieu. Alors, dans cette lumière-là, par rapport à... disons déjà que par rapport à cette intention du cœur, il y a une vigilance à avoir. Faire attention au mouvement intérieur du cœur, bon, d'être un peu au clair. Il y a des gens qui ne sont pas assez en contact avec leur cœur profond, qui ne sont pas assez intériorisés. Donc, comme je disais, finalement, ils s'arrêtent à leur bonne intention, ils ne voient pas l'intention qui est derrière. Donc déjà, il y a ça, une vigilance par rapport au cœur, à l'état de notre cœur, être un peu plus au clair sur ce qui se joue en profondeur en nous, hein, notamment à la recherche de nous-mêmes, de notre gloire, hein, le besoin d'une place, par exemple. Dans la vie d'un prêtre, ça peut être tellement prenant, ce besoin de reconnaissance, d'avoir une place, de choses comme ça, mais c'est dans le secret du cœur que ça se joue. Bien. Donc il y a ça, et en même temps, je dirais, une vigilance dans la prière. La prière aussi peut nous aider à rester dans cette pureté d'intention. Prier, c'est désirer le royaume, c'est désirer Dieu. Donc la prière, comme état continuel, contribue à la purification du cœur au quotidien. Ici, je fais une parenthèse, quand je prends un temps d'adoration eucharistique, ce n'est pas pour discerner pendant mon temps d'adoration, c'est pour purifier mon cœur pendant mon temps d'adoration. Je me remets devant le Christ obéissant au Père et je me laisse saisir par lui pour obéir au Père avec lui. Je me remets devant le Christ dans son offrande et je me laisse prendre dans son offrande. Et ainsi, ayant purifié mon cœur dans la prière, dans l'adoration, eh bien, le discernement sera donné dans la journée. Les lumières viendront. Mais ne passons pas notre temps de prière à essayer de se dire « Mais qu'est-ce que Dieu veut de moi ? Est-ce qu'il veut ceci ? Est-ce qu'il veut cela ? Non. » Non. Il y a un temps pour tout. Ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ici, on peut comprendre, si on prend l'œil comme l'intention, ôte d'abord la poutre, purifie ton intention, tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, c'est-à-dire pour l'aider aussi à purifier son intention. Pas pour lui dire ce qu'il doit faire, mais pour l'aider à voir ce qu'il doit faire. En même temps, à se remettre devant Dieu. Si on est soi-même devant Dieu et qu'on vit devant Dieu, face à Dieu, on peut facilement aider les autres à se remettre devant Dieu. On les entraîne dans cet élan vers Dieu. Et en fait, c'est le plus grand service qu'on puisse leur rendre. Et à partir de là, normalement, ils vont eux-mêmes discerner. Alors, ça n'empêche pas, quelquefois, de donner des conseils précis, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas encore tout à fait mûrs pour vraiment se remettre vraiment dans l'axe comme ça. Si on est inspiré, qu'on donne un conseil et la personne nous fait confiance et qu'elle suit ce conseil-là, ça peut être bien comme ça que le Seigneur l'a conduit. Mais il faut penser que malgré tout, le plus grand service, c'est pas tant de discerner à la place que de rendre l'autre capable de discerner lui-même. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, nous avons vu dans quel sens, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Le discernement spirituel, c'est le passe par le renoncement à soi, au sens où nous l'avons dit, cette intention simple, mais il y a la croix qui apparaît pour suivre le Christ et marcher dans sa lumière. Il ne faut pas simplement renoncer à nous-mêmes, mais aussi concrètement porter la croix. C'est la suite logique. Si je me renonce à ma volonté propre, je suis amené à accepter ce qui contredit concrètement ma volonté propre. La croix, c'est toutes les contradictions de la vie. Les routes barrées, comme aimait dire le Père Thomas, Philippe. Et donc, il faut penser aussi qu'à cette purification de l'intention, qui n'est pas aussi total que souvent qu'on le voudrait, s'adjoint l'acceptation des épreuves de la vie, qui va permettre aussi de continuer à purifier le cœur, va nous donner l'occasion d'aller plus loin dans le renoncement à nous-mêmes, et va donc laisser passer davantage encore la lumière de Dieu. D'où l'expression citée par Jean-Paul II et qui fait partie des expressions latines traditionnelles. Je ne sais pas si c'est lié à un saint ou si c'est simplement fait partie du trésor de la grande tradition de l'Église, mais une expression frappante, ad lucem per crucem, à la lumière par la croix. Ad lucem per crucem. Qui de nous n'a pas fait cette expérience-là, que c'est suite à une grande épreuve que la lumière s'est faite. C'est pas dans les moments où nous sommes assez autosuffisants, un peu pleins de nous-mêmes, et qu'on tout baigne, on est content de la vie, tout marche comme on veut, c'est pas nécessairement dans ces moments-là qu'on a les lumières les plus profondes. En tout cas, moi, en tant qu'aumônier d'hôpital pendant 10 ans, j'ai pu vérifier à Kouchen, à Kouchen, que des gens m'ont dit, maintenant je vois ma vie dans une lumière différente. Si.
Oui, voilà.
Qu'ils soient chrétiens ou pas d'ailleurs. C'est une loi qui traverse tout simplement notre humanité. Mais je dirais, les épreuves, c'est comme des failles qui laissent passer la lumière. Alors, peut-être est-ce dans cette logique-là qu'on peut comprendre la tradition du jeûne, la tradition de la mortification, pour accéder à la lumière. Personne qui connaît bien la tradition juive me disait que les grands rabbins, actuellement encore, quand on leur pose des questions délicates au niveau de cas de conscience, le téléphone du monde entier pour poser la question à tel grand rabbin, des fois ils jeûnent pendant une semaine pour avoir la réponse. Ouais. Et dans l'écriture, nous trouvons Daniel. Dieu lui dit, pour comprendre, tu as résolu de te mortifier devant ton Dieu. Pour comprendre, tu as résolu de te mortifier. Ad lucem per crucem. Ad lucem per pénitentiaire. Pénitentia. À travers la pénitence, à travers les renoncements concrets à nous-mêmes, dans la chair. Aussi, Jésus dit, prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent pas dans les plaisirs de la vie, dans les soucis, tout ça. Tout ce qui fait qu'on est encombré, qu'on est dans une recherche de petites jouissances, tout ça, qui aveugle aussi, qui appesantisse notre cœur et aveugle notre esprit. Donc, quand vous n'y voyez rien, que vous n'êtes pas bien, tout ça, vous êtes jeûné. Faites une retraite, vous jeûnez, vous prenez des moyens spirituels pour que la lumière puisse se faire plus facilement. Enfin, quand on conseille quelqu'un, il faut penser que peut-être la personne, pour comprendre telle chose que nous on sent dans notre cœur mais qu'elle ne voit pas du tout, elle aura peut-être besoin de traverser certaines épreuves. Là aussi, il faut aller plus vite que les esprits. Alors, l'année dernière, on a beaucoup parlé de l'écoute. Je voudrais terminer en revenant sur l'écoute, parce que dans ce cadre du discernement spirituel, il me semble important de souligner que l'écoute est un terrain privilégié de travail sur nous-mêmes. Ce, enlève la poudre qui est dans ton œil, on peut le vivre pendant qu'on écoute l'autre. Écouter l'autre, comme on a dit l'année dernière, c'est renoncer à mener le jeu. C'est se vider même de sa pensée propre au sens où, on, pour écouter, on rentre dans le silence intérieur et on se rend disponible à une lumière supérieure. On lâche nos projets sur l'autre, sinon on ne peut pas vraiment l'accueillir dans une véritable écoute du cœur. Et donc il y a tout un travail de dégagement, de désencombrement et de renoncement qui peut se vivre dans l'écoute. Écouter, c'est aussi un exercice de patience. Donc c'est aussi porter une croix. L'autre me fait porter des choses qui sont lourdes. Et ce qu'il me fait porter en se déchargeant sur moi de sa colère, de sa désespérance, de sa déprime, eh bien, je le vis consciemment avec Jésus. Saint Paul dit porter le fardeau les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Quelqu'un veut le suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses projets sur l'autre, qu'il renonce à mener la conversation selon ses vues, qu'il prenne sa croix, qu'il porte le fardeau de l'autre en patientant, en vivant patiemment l'écoute. Donc, vous voyez, dans la vie, il peut y avoir des épreuves longues et profondes qui amènent à des purifications radicales et à des lumières radicales, si je puis dire, en tout cas à des nouvelles orientations de vie. Et puis, il y a le renoncer à soi-même et prendre sa croix au quotidien. Et là, il faut rentrer dans une logique et savoir saisir les occasions. C'est comme ça qu'au quotidien la lumière se fait et qu'on aidera les autres aussi à accueillir cette lumière. L'écoute, donc un lieu de discernement, mais aussi le dialogue, au sens où c'est important d'écouter, mais c'est important que celui auquel on voudrait. Quand on voudrait pouvoir aider dans son discernement, parle. Là-dessus, l'Écriture nous invite à plusieurs reprises à prendre, là c'est dans Tobie, le livre de Tobie, je crois que c'est l'ange qui lui conseille de prendre l'avis de toute personne sage. Benoît XVI n'arrête pas de répéter que nul n'est bon juge sur soi. Mais Dieu nous veut dépendants les uns des autres, mais cette dépendance les uns des autres qui fait qu'on se laisse éclairer les uns par les autres, elle passe par le fait qu'on s'ouvre, qu'on se livre, qu'on se dise des choses. Rappelez-vous que dans l'Évangile, il y a un démon qui s'appelle le démon muet, le mutisme. Ça, c'est un profond blocage. Il y a une personne que je connais qui est assez souvent malmenée par le démon. En fait, elle voulait cacher sa maladie. Enfin, elle avait des problèmes physiques probablement liés à l'action du malin. Et elle voulait le cacher. Elle est dans la communauté de l'Emmanuel. Elle voulait le cacher aux frères et sœurs pour ne pas les inquiéter, parce qu'elle avait peur de ceci et cela. Et en fait, c'est à partir du moment où elle a eu la simplicité et l'humilité, je dirais aussi, de dire les choses telles qu'elles étaient, que c'est parti. Je pense que c'était l'acte que Dieu attendait d'elle, une forme aussi d'abandon que de dire les choses aux frères, de se livrer comme ça, de cette manière-là. Souvent d'ailleurs, quand par notre attitude on permet à l'autre de parler, de dire des choses que j'estime s'il avait gardé en soi, on s'aperçoit qu'il sort de l'entretien en ayant la lumière sans que nous on ait rien dit. Ici, Florence va.
C'est très reposant. On se fatigue beaucoup trop à penser pour l'autre, à vouloir pour l'autre, à chercher pour lui. Il n'y a qu'à l'écouter et le laisser dérouler sa pensée et dire « Ah oui, ça me fait penser à... Ah tiens, en fait, je me souviens. Ah mais oui, ça y est. »
Et merci beaucoup, tu m'as bien aidée et je n'avais pas ouvert la bouche. Vous connaissez tout ça, on se fatigue beaucoup trop. Et l'écoute est très reposante.
Donc, voilà, il y a le... C'est le dialogue qui est salutaire. Quand deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, et Saint Jean de la Croix commente en disant être réuni au nom de Jésus, c'est être réuni au nom de la vérité, c'est-à-dire avoir au fond de son cœur ce désir de vérité, de lumière. Quand deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, je suis là au milieu d'eux. Il est là au milieu de nous pour nous éclairer, à condition qu'on soit deux ou trois. Voilà, voilà la vertu divine du dialogue. Et à ce sujet-là, j'ai remarqué dans le cadre de l'accompagnement spirituel, de la direction spirituelle, qu'il y a des personnes qui sont vraiment prises par le démon muet, c'est-à-dire qu'elles ont toutes sortes de scrupules, des choses qui font qu'elles n'arrivent pas à lâcher le morceau, comme on dit. Et ça peut suffire pour faire un blocage qui fait que la lumière n'arrive pas à se faire en elle. Vous voyez, on est dans cette logique-là, quand on va se confesser, en fait, ce sacrement porte souvent un fruit de lumière pour un discernement. Là aussi, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans le trou, vous ne voyez pas comment avancer, vous pouvez jeûner, mais plus simplement, vous pouvez aller vous confesser. Même si vous n'avez pas l'impression d'avoir grand-chose à dire. Mais vous le faites comme un exercice d'humilité, manière de vous s'ouvrir, de vous livrer, et finalement de vous laisser rejoindre par le Christ, à travers, je dirais, c'est la grâce propre du sacrement, mais c'est aussi l'attitude de confession, vous voyez, l'attitude de confession, Dieu donne sa grâce aux humbles, l'attitude de confession qui remporte le morceau, si je puis dire. C'est cette attitude de confession qui est un secret pour le discernement spirituel qu'il faudrait cultiver aussi avec des frères et des sœurs qui sont des vrais frères et des vraies sœurs auxquels on puisse dire des choses parce qu'on ne peut pas se confesser tous les jours à un prêtre. Mais par contre, on peut se dire des choses entre frères et sœurs, se dire ses combats, ses difficultés. Quelquefois, il suffit d'avoir eu l'humilité de les dire pour que les ténèbres se disparaissent et que la lumière se fasse.
Amen.
Florence, c'est le mot de la fin. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Amen.
Père, Fils, Saint-Esprit.